en direct du Canada, en direct de Montréal, à l'heure avancée maintenant de l'Est du pays. Nous avons 5 fuseaux horaires et demi, hein, quand même c'est bien. On a à revendre. Il est 11h15 de Montréal, ici même en studio. Nous avons des collègues de la section française de Radio-Canada International. Maryse Jobin qui se joint à notre équipée. Bonjour Maryse.
Bonjour Stéphane.
Elle est complètement à l'autre bout du studio et au milieu du studio se trouve Alice Chantal, qu'on va voir dans quelques instants. On dévoile l'image, voilà. Bonjour Chantal.
Bonjour Stéphane.
Belle couleur. Fantastique couleur. Vous êtes en santé, vous, hein?
Oh oui, malgré la menace ambiante.
Hein? Ben oui. On va parler de ça en début d'émission, c'est incontournable. Il faut faire ce qu'on appelle notre travail de vous informer du climat, ou à tout le moins du climat, l'atmosphère ici qui règne au Canada ou dans certaines parties du pays. On a autour de 160 cas de personnes qui maintenant sont officiellement infectées par le virus, le coronavirus.
Coronavirus,
oui, j'en perds mon latin. Écoutez, je suis un petit peu, il y a un mot en anglais pour ça, je ne vous le donnerai pas, mais un petit peu déséquilibré aujourd'hui par le fait qu'on avait prévu une émission sur un certain thème, ce qu'on va faire un peu plus tard, mais également il faut faire place à cette question qui préoccupe les Canadiens. Est-ce que je vais être infecté? Est-ce que mes proches vont être infectés? Est-ce que je vais survivre? Tout le monde se pose la question et vous remarquerez ici qu'il y a un peu plus de distance entre nous. Nous sommes pratiquement il faudrait que l'écran soit plus grand encore pour...
Tout à fait. Mais en fait,
les autorités nous disent qu'il faut garder
Il faut garder une certaine distance. Tout à fait, oui.
On est peut-être un peu plus proche.
Un mètre là, pas deux mètres. Ouais, c'est ça. C'est 3,5 pieds pour les Canadiens.
Le studio n'est pas assez grand.
Ça. On appelle ça la distanciation sociale. Et la distanciation sociale, c'est aussi le phénomène de ne pas se présenter en public, d'éviter les grands rassemblements. Et on en est là. Qu'est-ce qui a été annulé cette semaine, Maryse Jobin, au niveau de Montréal, par exemple? Prenons uniquement la ville de Montréal.
Presque tous les événements culturels où il y a plus de 250 personnes qui se rassemblent.
Tout à fait, oui.
À l'échelle des Amériques, pour le sport, oubliez ça, là. Je regarde les gants régis, là. Vous n'aurez pas de match en direct. Il ne va rien se passer, que ce soit dans la Ligue nationale, la NBA.
La NBA, c'est vraiment
c'est
toutes les compétitions qui sont annulées,
et
même du côté des jeunes.
Et là, je pense que c'est au niveau des écoles. Quand les gens entendent dire que les écoles doivent rester fermées ou vont fermer sans ordres officiels du gouvernement, du ministère de l'Éducation, mais qu'elles prennent elles-mêmes la décision, il y a comme un mouvement de panique qui commence véritablement à s'installer. Les gens disent, mais mon enfant reste à la maison,
Parce que dans les écoles, il y a des enfants qui ont voyagé avec leurs parents durant la semaine de relâche, qui était pour certains en Europe et même en Italie. Donc, c'est pour cette raison que les commissions scolaires ne prennent pas de risques.
Et ce qu'on veut éviter, nous disent les autorités de santé, c'est cette fameuse courbe que peut-être que vous avez vue à la télé, où on veut aplanir la courbe. C'est-à-dire qu'on ne veut pas avoir un pic
tout
comme
à fait,
en Italie.
C'est ce qu'a dit le directeur.
Aplanir, contrôler,
tout
pour
à fait.
Qu'il y ait moins de cas graves.
Mais oui.
Parce que dans la population, on peut être asymptomatique ou avoir des symptômes légers, mais quand même être contaminé.
Tout à fait.
Le problème, c'est qu'on le passe aux autres et qu'il y a des gens qui sont plus vulnérables.
Ouais. Tout à fait.
Écoutez,
tout à fait.
J'aimerais faire la part des choses. Il y a deux choses qu'on doit surveiller lorsqu'il y a une épidémie, dans ce cas-ci une pandémie. C'est le taux de communication de la maladie. Il y a un terme très scientifique pour ça, mais si je vais le communiquer en moyenne à combien de personnes?
À combien de personnes?
C'est une personne dans le cas de ce coronavirus. Dans le cas de la tuberculose, je pense que c'est 12 autour de... C'est très élevé. C'est très, très communicatif, si vous voulez, ce virus-là.
On se rappelle des sanatoriums qu'on voyait à une époque, parce qu'il n'y avait pas de médicaments.
Ouais. Donc, il y a des maladies qui se communiquent plus que d'autres. Il y a aussi un autre aspect, c'est
le taux de mortalité.
Et voilà, taux de survie. Moi, je suis plus positif.
Bon.
Même.
Ouais. Ben oui.
Et puis, à quel âge on est le plus susceptible d'avoir des troubles majeurs? Et on sait que c'est 80% des gens qui s'en tirent relativement bien avec des symptômes mineurs. Mais plus vous êtes en âge...
On parlait tantôt des personnes âgées de 60 ans et plus qui devraient vraiment faire attention.
Et
d'après les recommandations qui ont été
formulées
par le premier ministre hier, à savoir éviter de rendre visite aux personnes âgées dans nos CHSLD. Donc c'est vraiment des précautions individuelles qu'il faut prendre pour éviter la propagation de ce virus.
Il y a des paradoxes dans tout ça. Puis, je vais parler du phénomène de la panique. Comment il se fait que l'être humain est sujet à la panique, ça a été étudié comme phénomène. On n'est pas fou, là. C'est quelque chose qui est normal chez l'être humain.
C'est l'instinct de survie.
Il y a des gens qui sont déjà anxieux en partant.
Ouais.
Alors, quand arrive une situation comme celle-ci, les gens deviennent anxiogènes. Ouais. Et là, on essaie d'avoir le contrôle sur quelque chose.
Ça va très rapidement. Je vais raconter une histoire. Moi, j'apporte hier des choses à ma mère qui était tombée malade récemment, donc elle préfère ne pas sortir. Mm-hmm. Et elle m'accueille à la maison avec un masque.
Oh.
Et j'étais comme, waouh, elle ne m'avait rien dit. Elle accueille son fils avec un masque. Elle l'a enlevé en se disant, peut-être que j'exagère. Mm-hmm. Mais je me lave les mains une fois rentrée chez elle. C'est la première chose que je fais en me disant, ben c'est les bonnes manières. Hein. C'est ça aujourd'hui,
ça
les bonnes manières.
Ça me fait également penser à cette mère de Laval qui est allée accueillir sa fille à l'aéroport il y a quelques deux jours et qui a été obligée de louer une petite maison pour la maintenir en confinement. Le temps de voir si elle n'est pas touchée par le virus.
Place au commerce maintenant, puisque c'est un aspect important de cette crise, ce qui se passe à la bourse, bien sûr, et ce qui se passe dans les magasins.
Dans les magasins, c'est vraiment la ruée vers les denrées de première nécessité, le papier toilette.
Ouais. Je ne peux pas vous le vendre, vous comprendrez bien, ce serait un conflit d'intérêts, surtout que ça vient de Radio-Canada.
Tout à fait.
Mais je pourrais facilement vous le céder,
mais oui,
gentiment.
Avec sans, plaisir.
Mais comme je l'ai touché, je vous le conseille.
Non, ce n'est pas une bonne idée.
Fais attention.
C'est ça. Mais la ruée vers le papier de toilette, là, c'est quand même extraordinaire, ces histoires-là.
C'est un phénomène incroyable. Hein. Il y en a qui vont se procurer des tonnes et des tonnes de... Je ne sais pas, moi...
Mais moi, la blague, je me dis, les gens devraient aussi se préoccuper de la nourriture. Parce qu'avant d'arriver au papier toilette, il faut manger. Et s'assurer qu'on a ce qu'il faut à la maison.
Écoutez, moi, j'ai hâte que l'émission se termine pour que j'aille faire mon shopping. Et mes chats, ils ont besoin de nourriture, eux aussi.
Apparemment, il faut y aller tôt le matin parce que les gens achètent tellement en grande quantité.
Tout à fait.
Qu'à un moment de la journée, et
la file est apparemment très, très longue.
Dans certains endroits.
Dans certains endroits où il faut attendre 2 heures de temps pour payer, pour passer à la caisse.
C'est ça. Les viandes, apparemment, si vous travaillez dans le secteur des viandes, la boucherie, il reste. Ben, je ne veux pas raconter des histoires personnelles ici, mais on a vu plusieurs ce matin en me promenant, puis il manque de poulet ou les étagères sont complètement vides.
D'ailleurs, je prépare un article pour aujourd'hui que vous pourrez voir sur le site à propos de ça, et on cite 2 experts là-dessus.
Okay. Maintenant qu'on vous a mis la table pour vous parler d'à quoi ça ressemble ce sentiment de panique, j'appellerais ça de l'effervescence. Moi, je l'ai senti la première fois hier après-midi.
C'est vraiment le branle-bas généralisé. Ouais. Hein,
mais seulement hier après-midi. Avant ça, je me disais, j'étais un petit peu fatigué, c'est-à-dire en bon québécois tanné, de parler du coronavirus, mais en disant, mais c'est ma job, c'est mon travail d'informer les gens, j'ai pas le choix. Si c'est ça le sujet ou qui est le plus important, il faut que j'en parle.
Et là, vous avez encore moins le choix.
Ben oui. Je vais raconter ce que c'est le problème des médias dans une situation où les gens prennent panique, d'accord? Ou quand il faut informer les gens, ils tiennent à être informés.
Et il faut s'assurer de donner la bonne information aux gens.
Voilà. Alors, le surplus d'informations, c'est aussi un problème.
Voici, et ne pas contribuer à cette panique, c'est ça?
Tout à fait.
Voilà. Ben, je ne sais pas. Moi, je ne fais pas de morale, mais je vais vous raconter le point de vue ici d'un spécialiste qui s'appelle Sylvain Delouvet, psychosociologue et maître de conférences à l'Université de Rennes en France, la France qui elle-même a des problèmes actuellement. Et on lui a posé la question, l'information délivrée au public par les médias peut-elle être aussi un vecteur de la panique collective? Est-ce qu'on participe à ça? Évidemment, la réponse, c'est oui. Et il explique... C'est un cercle vicieux. À partir du moment où une telle épidémie est en train d'approcher, forcément, les journalistes vont l'évoquer. C'est bien sûr.
C'est clair, mais
voilà.
Oui, tout
à fait. À partir du moment où ils l'évoquent, ils la rendent plus accessible au grand public. Mm-hmm. À partir du moment où le grand public est plus au courant, il devient plus intéressé.
Tout à fait.
Donc, les journalistes travaillent plus.
Parce que là, il n'y a pas de souci.
Oui. Ils travaillent plus pour les informer encore davantage. Mm-hmm. Et je ne pense pas que, dit-il, que les journalistes créent la panique. Mm-hmm. Comme les citoyens, les journalistes sont pris dans un mouvement d'ensemble face à une épidémie et cherchent à se rassurer eux-mêmes, c'est-à-dire à comprendre ce qui se passe.
Tout à fait.
Et pour se rassurer, monsieur ou madame tout le monde va essayer d'aller lui-même ou elle-même chercher des informations à droite et à gauche, des fois au mauvais poste, pour ne pas les citer. Mm-hmm. Les journalistes vont faire leur métier d'information, en principe, selon le type de média, de manière plus ou moins objective, mais toujours quand même avec une méthodologie professionnelle du journalisme. Ils vont faire leur travail. Normalement, lui, il habite en France, donc il n'a pas le problème de certains médias aux États-Unis qui n'ont que la version du président.
Oui, et je dirais qu'avec l'instantanéité des médias d'aujourd'hui, où tout le monde s'envoie des petits messages par Twitter et autres. Bon, qu'est-ce qui se passe? Alors, voilà une alerte.
Ah non, ça, c'est une... Écoutez, c'est le sujet d'une précédente émission, c'est... On va... Taisez-vous! Voilà, c'est une arnaque. On en a parlé dans une précédente émission. Vous pouvez aller sur notre site web voir ça.
Des téléphones qui viennent d'ailleurs.
C'est, je vous appelle du ministère du Revenu du Canada.
Ah, voilà.
Oh, oui.
Et, ouais, c'est ce numéro-là.
Ces fameux voleurs de données à travers des appels inconnus.
C'est ça. Et des fois, ils parlent en anglais. Des fois, ils parlent en français. Mais le tout le temps, c'est en anglais. Puis ensuite, il y a une voix en chinois qui dit... Là, on comprend que l'on vise davantage la personne qui vient d'émigrer au Canada. Ce 1 million de Canadiens d'origine chinoise.
Et le mot d'ordre, c'est quoi? C'est d'éviter tous ces
appels. Vous ne retournez même pas l'appel.
On ne retourne pas l'appel.
On va à la barre où on peut supprimer le numéro de téléphone.
Mais ensuite, ils inventent un nouveau numéro de téléphone. J'en ai reçu un hier, j'étais dans l'auto, et puis bon, j'ai vu à tous les jours un nouveau numéro.
Voilà.
Alors ça, le sujet, c'est aujourd'hui un petit peu le monde de la panique, mais aussi le fait qu'on aurait aimé bien en parler aujourd'hui. Mais heureusement, moi, j'ai passé ma semaine à essayer de préparer une prochaine émission. Qui devait porter sur plusieurs sujets à la fois, notamment ce qui se passe à la bourse. Donc, si vous avez des questions pour nous, c'est un auditeur en France qui m'a posé la question cette semaine. Est-ce que vous ne contribuez pas vous-même? Il ne nous pointait pas du doigt, RCI, mais vous, les médias, à ce mouvement de panique. Et j'ai dit, je vais faire de la recherche. Et lui, en retour, m'a envoyé de l'information. Et ce que je viens de vous donner, c'est une partie de l'information que lui avait.
L'information qu'il vous a communiquée.
Voilà. Donc, ça fonctionne dans les deux sens. C'est mieux quand ça fonctionne dans les deux sens. Ça a plus de sens, je pense, plutôt que... Hein, chacun dans sa tour d'ivoire, en train d'essayer de deviner. Voilà comment on va faire les choses. Voilà pour aujourd'hui.
D'accord.
Donc, je vous libère tout de suite. Et puis, merci.
Et puis, c'est terminé.
Non, c'est pas terminé.
Bon. Il n'y a pas le fameux test, les questions pièges.
Bien sûr, bien sûr.
Est-ce que ça commence tout de suite?
Ça commence tout de suite. On va faire une version écourtée de notre,
voilà, de
notre émission aujourd'hui. Alors, le thème de l'émission officiellement aujourd'hui, porte sur quoi? Nous allons vous présenter cette... Oh! Est-ce que je vous ai présenté une vidéo sur les mouvements, les gens qui achetaient des choses en magasin?
Non, 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 pas encore, non.
Oubliez ça.
Non.
Je ne veux pas contribuer au mouvement de...
Tout le monde l'a vu, hein?
Oui, OK. Au Canada, oui. Alors, voici maintenant la vidéo numéro 5 images. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a?
C'est parce qu'il y a déjà une question à l'écran qu'on peut voir.
Quelle est la population d'Abidjan?
Non, non, s'il vous plaît. Vous mettez des questions à fond.
Et je suis sûre que madame aura la réponse.
Ben, Abidjan, écoutez, on est en Côte d'Ivoire.
Allez-y. Ouais.
C'est sûr que c'est en Afrique, c'est pas
mon allez-y. Ben, vous avez même pas, vous connaissez pas le sujet de l'émission, bravo.
Non, non, du tout.
Mais vous avez la question, on va y aller vers la question maintenant.
D'accord.
Même si vous connaissez pas le sujet.
La population d'Abidjan?
Oui.
Abidjan, c'est la capitale...
J'ai la question sous les yeux.
De la Côte d'Ivoire.
Tout à fait.
Voilà.
On ne peut rien vous apprendre.
2,2 millions.
Il y a une naissance de Didier Drogba, peut-être, le joueur de soccer?
Pas forcément.
Quelle est la population d'Abidjan? 2,2 millions? Ou est-ce que c'est B, 4,4 millions? Ou est-ce que c'est C, 8,8 millions?
Mais Abidjan, c'est quand même une grande ville.
Oui.
C'est une ville où se brasse pas mal d'affaires en Afrique de l'Ouest.
Êtes-vous déjà allé à Abidjan?
Non, j'ai survolé Abidjan.
Oui?
Oui. Je dirais entre 4,4 millions.
Ouais, parce que vu à 20 000 mètres d'altitude, là, ça a l'air d'une grosse
ville. Ouais, ça a l'air d'une grosse ville, oui. Ouais. Je dirais B.
B?
Oui.
Ben, moi, j'hésite entre 4 et 2 parce que je me dis, je ne sais pas s'il y a autant de gens que, par exemple, dans la capitale du Sénégal.
Ah.
Alors, moi, je vais aller avec A.
Puis, il y en a combien dans la capitale du Sénégal, Marie?
Je ne sais pas, mais je sais que c'est plus gros, d'après moi.
OK. Alors, il vous reste 8 secondes encore pour y ajuster votre réponse.
Ben, je reste avec ma réponse B.
B, d'accord, pour Alice et puis Marie.
Juste
ben, moi, je vais rester avec A.
Ah, c'est très bien. Alors, une d'entre vous avait perdu vos 20 boules, voilà.
C'est Marie.
Marie.
Oh, voilà. C'est 4.
Oh, merci. Mais c'est 4 minutes, 4 millions.
Mais c'est drôle parce qu'elle avait dit, « Oh, je ne suis pas trop courant, ce n'est pas mon pays, je suis du Cameroun. » Et finalement, elle a la bonne réponse.
Ouais.
Ben, je sais que généralement, dans ces grandes métropoles africaines, il y a beaucoup de gens, mais rarement on va dépasser 6 millions, 7 millions.
C'est ça.
Okay.
Parce que la population générale, c'est autour de 16 millions ou 17 millions.
C'est ça.
Donc, serait totalement aberrant qu'on ait 8 millions juste à Abidjan.
Ouais.
Et le reste du pays, qu'est-ce qu'on en fait?
En tout cas, ces choses vont changer avec les taux de natalité très, très importants dans
peut-être.
Ces pays. Hein.
Oui,
je pense que Kinshasa, là, ça va être la plus grande ville africaine, à part le Caire, bien sûr, d'ici quelques années.
Et Addis Abeba aussi. Hein.
Ah oui?
En Éthiopie, il y a pas mal de choses qui se passent en ce moment. Enfin, il y a... un nouveau monde qui se crée dans ce pays-là. C'est un pays où poussent pas mal d'immeubles, où il y a beaucoup d'entrepreneurs étrangers qui viennent signer des contrats avec des partenaires locaux. Je ne sais pas si vous avez suivi le documentaire d'Azeb
Wadejordis.
Elle a fait vraiment un travail super intéressant sur son pays. Je trouve que c'est son pays d'origine,
à
la base.
Alors, on va aller vers la Côte d'Ivoire, puisque vous nous y amenez. Et voici la vidéo 5 images.
Dans le fond, notre sujet, c'est la Côte d'Ivoire.
Il y a quelque chose qui se passe en Côte d'Ivoire.
Il y a quelque chose qui qui se passe là-bas. Il y a le président Ouattara qui ne sera pas candidat à la prochaine élection, c'est ça?
C'est pas politique.
C'est pas politique.
C'est pas politique. Alors, on regarde ces cinq images. Ça s'en vient, vous en faites pas, là.
Voilà.
Voilà. C'est pour situer la Côte d'Ivoire pour tout le monde, d'accord?
Ben oui.
Afrique de l'Ouest.
C'est en Afrique de l'Ouest, voilà. Un peu proche de l'océan Atlantique.
Près du Ghana.
Abidjan est sur la côte.
Oui, sur la côte atlantique.
Quelle belle ville.
Oui, c'est très belle ville.
Vue des airs.
Oui, vue des airs, bien sûr.
Voilà.
C'est sûr qu'on a toujours...
Image numéro 4.
Dans ces villes-là, on a toujours deux mondes.
Image numéro 4, il y avait un indice important. Massa.
Le marché des arts et de la culture.
Bravo, félicitations. Félicitations. Je suis bien content.
Ben merci.
Ben oui.
Marché des arts du spectacle.
Des arts, de la culture et du spectacle.
Voilà. Alors, ça se termine demain.
Okay.
Et dans cette édition-là, le Canada est à l'honneur au marché des arts du spectacle d'Abidjan. D'accord. Okay. On devait faire une entrevue avec le responsable du conseil canadien de la culture, qui a dû se désister pour une raison mystérieuse au dernier moment, de façon tout à fait mystérieuse. Je vous dis, c'est un véritable mystère, mais on n'en fera pas une soupe. Mais on devait aussi, je pense, est-ce que je vais vérifier avec le service technique, est-ce qu'on a quelqu'un en Côte d'Ivoire, à Abidjan, à qui on pourrait parler au téléphone?
Là.
On me dit qu'on a des petits problèmes techniques et je doute qu'on puisse résoudre l'affaire. Mais c'est quand même bien parce que vous êtes là et nous avons des images de la Massa.
Bon, et puis, on va aller voir ça.
Vous savez, moi, j'ai été impressionné. On va regarder la vidéo numéro 2. C'est le commanditaire Orange. Téléphone Orange?
Oui, bien sûr, je sais ce qui est Orange.
C'est très important
c'est
en Afrique.
C'est un opérateur économique téléphonique en Afrique.
Est-ce que c'est un acteur européen des télécoms?
Oui, c'est un acteur européen. Mais en Afrique, il y a beaucoup de concurrents. Il y a notamment MTN, qui est sud-africain, je crois bien, et qui opère également en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale.
Je pense qu'il y a des ramifications avec la Chine maintenant.
C'est des compagnies qui ont totalement démocratisé l'accès au téléphone mobile dans certains pays d'Afrique. Donc là, c'est vraiment les images du marché des spectacles, des arts et des spectacles.
Alors, c'est comme un peu à Montréal. C'est pas que dans un endroit précis où ça danse et on s'amuse.
Ça se promène un peu partout.
La ville elle-même, c'est une grosse affaire. J'ai été très surpris. Puis, je vais vous montrer la vidéo numéro 3.
Mais je pense qu'Orange devrait être comme une espèce de commanditaire pour cet événement-là.
Exactement.
Et puis, c'est un événement très, très couru, parce qu'on a pas mal d'artistes qui viennent d'horizons divers, qui viennent de différents pays d'Afrique.
Est-ce que ça se passe principalement à cet événement-là? Français ou est-ce que...
Oui, c'est un pays francophone, mais n'oublions pas qu'en Afrique, il y a plusieurs langues aussi, des langues locales. Donc, naturellement, les artistes vont devoir également s'exprimer dans leur langue régionale ou locale.
C'est important. La Côte d'Ivoire, là, c'est la 11e édition, si je me souviens bien. Moi, je me souviens, étant petit garçon, j'écoutais à l'heure du midi ce qu'on appellerait un radio-roman qui venait de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan. Et c'était très coté, parce qu'Abidjan avait la réputation, il y a une vingtaine et plus d'années, là, quand même, avait la réputation déjà à ce moment-là d'être un centre de la culture, du rayonnement culturel, des productions. Je ne sais pas si si vous les enviez au Cameroun, quand même, vous n'êtes pas un petit pays, là, vous êtes un beau grand pays, mais est-ce qu'il y a une compétition entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire à ce sujet-là?
Je ne dirais pas qu'il y a une compétition. Il y a comme une espèce de complémentarité entre ces pays-là. Parce que des fois, il y a le Cameroun qui va accueillir certaines des éditions de rencontres culturelles. Il y a également une ville au Sénégal, sur la côte atlantique. Je crois que c'est la ville de Saint-Louis.
Saint-Louis au Sénégal.
Qui est une ville très, très culturelle aussi. Il y a également des marchés des arts et du spectacle qui se déroulent sur une base annuelle ou biannuelle, je ne sais pas moi, dans cette ville-là. Et c'est des événements qui attirent pas mal d'artistes. Des artistes qui viennent de la France, de plusieurs pays d'Afrique et même de l'Afrique du Sud. Je ne sais pas si vous connaissez Saint-Louis du Sénégal.
Ben, j'y ai habité, madame, pendant 4 ans.
C'est bien ça.
Ben oui, je connais tout, moi.
Est-ce que c'est en bord de mer ou...
Ben oui, c'est en bord de mer.
Ouais. C'est vraiment au bord de l'océan, de l'océan Atlantique.
Moi, je me rappelle de la plage de Petrobas.
Est-ce que vous connaissez l'explorateur français Mermoz?
Vous savez, à l'école, je n'étais pas très bon.
Écoutez, ce n'est pas une affaire d'être bon, mais je sais que... À Saint-Louis du Sénégal, il y a un hôtel qui porte son nom, l'hôtel Mermoz.
Ah ouais.
Okay. Oui, oui. Et puis, c'est comme une espèce, je veux dire, d'hommage que la ville a voulu rendre à cet homme qui a traversé l'océan pour venir à la rencontre des populations locales.
C'est une ville extrêmement particulière au niveau de son architecture.
Tout à fait.
Moi, je ne savais pas étant enfant, mais après, bon, j'apprends. J'ai vu même un documentaire à TV5.
En fait, selon l'histoire, Saint-Louis du Sénégal a été la capitale de toute l'Afrique occidentale francophone à un moment donné. Donc, avec la présence française, naturellement, à cette époque-là, c'était vraiment à Saint-Louis que toutes les décisions régionales étaient prises avant les années de l'indépendance.
Donc, il y a un port assez important dans cette région-là.
Dans cette région. Et moi également, vous parliez tantôt d'architecture. Ce qui m'a marqué, c'est vraiment les locaux du gouverneur. Le gouverneur de cette région-là. Et c'est un immeuble centenaire, je crois, et qui est toujours debout, très, très fièrement.
Et c'est quelle
debout.
Sorte d'architecture à...
Ça rappelle un peu les anciens bâtiments français.
Ah, voilà.
Oui, c'est un peu le style, comment on dit ça dans...
Colonial.
Oui, le style colonial, un peu modernisé avec le temps, parce que la façade est un peu comme rénovée.
Ouais.
Et vraiment, c'est très, très beau.
Ce que vous dites, c'est vrai, au niveau des rénovations des maisons, c'est des vieilles façades, puis on a rénové tout l'intérieur.
Tout à fait, oui.
C'est le jeu. Vous pensez que vous êtes dans une vieille ville qui est en train de tomber, mais de s'écroupir.
Et comme vous le dites si bien, Saint-Louis du Sénégal rappelle certaines vieilles villes françaises, comme Montpellier.
C'est vrai,
Oui, parce qu'au niveau de l'architecture, c'est les Français qui ont bâti cette ville. Et du coup, il y a une ressemblance, c'est vraiment quasi similaire.
Ah ben, nous faites voyager sur plusieurs milliers de kilomètres, parce qu'il y a beaucoup de à couvrir. Là. Vous êtes prêts pour le deuxième jeu?
Oui, bien sûr.
Ça fait de la peine de voir que vous avez quelqu'un d'entre vous.
Mais là, j'ai l'impression que je vais perdre, parce que là, on a une experte.
Ouais. Ah non, je ne suis pas experte.
Oh, moi. Vous l'êtes.
Je ne le suis pas.
On va continuer à parler de cette belle grande ville de 4,4 millions d'habitants, d'Abidjan, d'accord? Comme si on était, d'accord?
D'accord.
Alors, voici. Je dis la belle ville, mais je pense qu'on va aussi parler du pays un peu, là. Il faudrait quand même découvrir un peu plus la Côte d'Ivoire. Qu'ont en commun les noms suivants? Atécoubé, Cocody, Béago, Makori et Yopougon. Est-ce que ce sont des noms de villes de Côte d'Ivoire? Est-ce que ce sont des noms d'artistes de Côte d'Ivoire? Qui ont participé, par exemple, à la Massa.
Bon, je connais, par exemple, Yopougon, qui est une ville, ville très, très célèbre.
OK. C'est un bon indice.
Donc, j'irai avec la réponse A.
Vous iriez avec A. Marise, est-ce que sont...
Cocody également. Oui, j'ai entendu parler de Cocody.
Est-ce que ce serait C, des noms de politiciens de Côte d'Ivoire, Marise, ou aucune de ces réponses? D.
Ah, c'est une très bonne question. Et là, moi, vous n'avez pas parlé de B, je ne sais pas pourquoi.
Pardon?
Vous n'avez pas parlé de B.
Ben, B, des noms d'artistes de Côte d'Ivoire.
Non, moi, c'est vraiment A. Ah. Parce que là-dedans, il y a au moins deux villes.
Okay. Oui, c'est le nom de ville.
Et puis, j'ai Cocody.
OK, mais il se peut qu'un nom de ville porte le nom d'un artiste.
8 secondes.
Non?
Vous arrêtez votre choix.
Pas nécessairement. Moi, c'est
bon,
A.
Ben, je vais me ranger avec madame.
Madame.
Mais j'aurais peut-être eu B.
Moi, c'est A, parce que là-dedans, on a Yopougon et Cocody qui sont des noms de villes.
Madame, mesdames, regardez la réponse. Pourquoi ce deuxième ton? C'est aucune de ces réponses.
Mais ça veut dire que vous avez introduit des noms.
Alors, on se fait nettoyer.
Qui ne désigne pas des villes.
Oh, j'ai rien introduit. Moi, je n'ai fait que sélectionner.
Parce que Cocody, c'est une ville.
Oui.
Yopougon également.
Ouais.
Oui, mais...
Ce sont des communes.
Ah, des communes.
Des communes.
OK.
Il faut avoir le terme exact.
Il nous a fait le même coup la semaine dernière. Il nous a demandé
mais oui, il y avait tout un piège.
Ce sont des communes d'Abidjan.
OK.
D'accord? Abidjan, c'est une ville qui s'étale en commune.
OK. Donc, on a comme des espèces de quartiers.
Alors, quand vous étiez...
C'est Yopougon. C'est pas des villes. C'est des quartiers.
OK.
Yopougon et Cocody.
Quand vous étiez là-bas, quand vous étiez à Saint-Louis, est-ce qu'il y avait des communes ou... C'était simplement
aucune
la ville de
idée, madame. Il y avait des écoles et des hôpitaux, ça, je m'en souviens, c'est
Est-ce
tout.
Est-ce que vous aviez l'habitude de vous déplacer en transport en commun?
Ah, ben écoutez, ça, c'est amusant parce que mes parents, ils travaillaient pour
dans
l'Asie.
Dans des autobus bariolés aux couleurs locales?
Ah oui, c'est quelque chose. Non, en vélo.
Ah,
j'étais sur la fourche du vélo de mon père parce que j'étais tout petit. Okay. C'est comme ça que je me transportais.
Mm-hmm.
Je ne me transportais pas moi.
Mon père me transportait.
Oui, je me faisais transporter.
Okay.
C'était un vélo où on marchait parce qu'on habitait pas loin du centre-ville. En fait, il n'y a pas vraiment de centre-ville vraiment. Là, c'est un peu étalé sur des, sur des morceaux ici et là. C'était pas loin de la bibliothèque parce qu'on y allait souvent à pied pour aller chercher les albums de Tintin.
OK.
C'est des souvenirs d'enfants. Puis il y avait une petite boucherie bien amusante. Puis on m'a fait toujours un suçon. J'étais tellement jeune. Je prenais des suçons.
Ben
Jusqu'à l'âge de De 6 ans, madame.
Oh, ouais. Wow.
Je me souviens de ça.
Le fils à papa.
C'était pas du bœuf jerky, là, puisque vous non. étiez dans une déchirie, là. Non, c'était pas
non,
ça.
Non, non, c'était des petits chouchons. Mais en tout cas, chose sérieuse, vous avez perdu tous vos points, les 30 points okay. du deuxième jeu.
Ah, dites-le, voilà. On a perdu nos boules.
C'est ça. On y va pour le troisième jeu.
Bon.
50 boules à perdre. On va regarder ça ensemble. Le 50 boules à perdre.
À quoi? Orange, blanc, je sais qu'il y a du, il y a du vin.
Alors, lisez la question pour que tout le monde à la maison
suive. Le drapeau de la Côte d'Ivoire ressemble à quoi?
Mm-hmm.
Orange, blanc, vert. Bleu, jaune, rouge.
Oh.
Rouge, jaune, vert.
Oui.
Vert, jaune, rouge.
D'accord.
Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a du vert.
Vous pensez, c'est bien. Bonne déduction.
Il y a du vert.
Mais là, il y a du vert dans les trois, réponses.
Ah, ben c'est bien. Marie, ça vous aide, ça.
Il y a du vert, okay. Il y a du blanc.
Ouais.
Orange, je ne sais pas trop, mais il y a du jaune.
Donc, on peut éliminer bleu, jaune, rouge.
Ah, oh, on peut l'éliminer, vous
êtes sûr? Oui, je vais vous aider un peu, Marie.
OK.
Quand même. Il ne faut pas que vous partiez avec zéro.
Orange, blanc, vert.
Orange, mais là, est-ce qu'il a mis orange, bleu, vert pour nous mêler à cause du festival de Massa qui est commandité par
Orange?
Est-ce
qu'on a du rouge là-dedans?
Vert,
rouge, jaune, c'est le Cameroun. Là, c'est clair.
Vert, rouge, jaune. Okay. Non, vert, c'est dans jaune. L'ordre.
C'est dans l'ordre.
Des bandes verticales, rouge, jaune, vert. Ça, c'est donc pas votre drapeau. C'est le drapeau d'un autre pays.
Rouge, ça pas jaune.
On arrête les choix.
On se croirait Jeopardy.
A, B, C ou D? Maryse.
D.
B comme Bernard.
Non, moi, je vais avec D. J'ai dit D.
C.
OK.
Je ne sais pas trop.
C'est mal parti.
Pour toutes les deux?
C'était A.
On regarde la bonne réponse.
Orange.
OK, alors c'est
orange,
A.
Blanc,
orange, blanc, vert.
Alors, j'avais vu juste pour le... Mais je pensais que vous essayiez tout le temps induire en erreur.
Ouais.
J'aurais dû dire ça à cause du festival. Orange. Okay. Ouais, ils ont choisi parce que ça va avec le drapeau.
Ça va avec le drapeau, c'est vrai.
Alors, les amis, vous êtes prêts avec... on va maintenant...
Moi, il ne me reste plus rien.
Maris, attention, grande visite ici à Radio-Canada International, en direct d'Abidjan. En Côte d'Ivoire, Sidi B de Maféré, qui est un journaliste et un producteur radio là-bas.
Mm-hmm.
Et je pense qu'il est sur Skype, mais chose est certaine, on peut lui parler. Alors, Sidi B, bonjour. Est-ce que vous nous voyez?
Ah, voilà.
Je vous vois très bien. Je vois déjà le logo de RCI. Avec toute une dynamique déjà là.
Fantastique. Écoutez, on est fiers de vous avoir avec nous, même si le temps est un peu plus court. La réponse à laquelle on n'a pas question...
La question à laquelle on n'a pas de réponse.
Voilà. C'est que faisait le Canada au Massa et comment vous l'avez souligné, c'était le pays d'honneur, le pays qui était l'invité d'honneur. Je n'ai pas de réponse. Quelle est votre réponse?
La réponse est toute simple. Le Canada était à ce Massa très représenté avec plus de 120 artistes pour essayer de créer un pont culturel entre le Canada et l'Afrique. Ça a été une grande réussite ici et nous avons eu des entretiens avec des artistes canadiens et des artistes des autres pays. Naturellement, avec les responsables, naturellement, on va parler de M. Simon Beau, qui est le responsable du Conseil des arts du Canada, qui a contribué aussi à cette visibilité des arts du Canada à ce Massar, à cette 11e édition du Massar.
Dites-moi, vous avez parlé d'un certain nombre d'artistes, vous avez dit ça rapidement, c'était plus de 100 donc. C'était des artistes qui venaient de...
Oui.
Est-ce qu'il y a des noms que vous avez retenus pour nous, qu'on connaîtrait peut-être nous-mêmes? Il y a des gens qui sont sortis un petit peu de... On a dit, ah tiens, c'est bien ça.
Oui, on peut parler par exemple des artistes comme une artiste qui fait du graffiti, Mike Michel, qui est franco-ontarienne, qui a fait du graffiti sur les murs du Palais de la Culture où est le siège du Massa. On peut citer aussi Benoît Yao Davidson, qui est un conteur et qui, lui, à travers ses contes, il sculpte le conte, a essayé de faire voyager les spectateurs qui sont arrivés à ce Massa à travers la culture canadienne. Au-delà des artistes, nous pourrons citer aussi des personnalités canadiennes qui sont de cette délégation. Je parlais tantôt de M. Simon Beau, qui est, lui, est le président du Conseil des arts du Canada. Et à travers les interviews qu'ils nous ont accordées, par exemple, M. Simon demande que nous quittons la diplomatie, la diplomatie économique et politique pour aller vers la diplomatie culturelle. Ça veut dire quoi? La diplomatie culturelle, c'est de créer un pont d'échange entre les artistes du Sud, du Nord, pour essayer de monter des programmes qui peuvent aider les diplomates à pouvoir régler les questions de solidarité, de partage, de cohésion et de paix.
Oui, on se préoccupait tantôt de savoir, est-ce que la programmation de ce Mazala, c'est uniquement en français? Est-ce que c'est uniquement les artistes de pays francophones qui sont conviés à ce marché?
Non, évidemment, le marché des arts et du spectacle d'Abidjan, c'est toutes les langues qui sont conviées. On a des artistes qui nous arrivent du Ghana, aussi du Nigeria, du Libéria, de l'Afrique du Sud, qui ont fait leurs performances sur la scène du Mazala. Mais il faut dire que le pourcentage des pays francophones est assez élevé, compte tenu que ici, le français est la langue la plus parlée. La Côte d'Ivoire est un pays francophone.
Je suis curieux de savoir, vous êtes un journaliste, faut le signaler, hein, je vous connais. J'ai travaillé avec vous dans le passé, je pense il y a 8, 9, 10 ans. Et puis, on se souvient de vous à Radio-Canada International, avec grand respect et admiration pour la qualité de votre travail. Je vous le dis en passant, je tiens que tout le monde le sache, c'est bien. Hein? Je voulais savoir, je pense que vous avez un lien d'affection particulier pour les Canadiens ou le Canada. Est-ce que vous pourriez nous raconter quelque chose à ce sujet-là?
D'abord, moi, j'étais très heureux de retrouver cette langue, je dirais quelle langue, parce que cette symphonie de la langue du Canadien quand le Québécois s'exprime, que j'avais laissé pendant un temps depuis 2000, que je n'avais pas retrouvé, c'était pour moi aussi un voyage dans l'espace, un voyage dans la culture. Et il faut dire, le Canadien s'est fait remarquer positivement à ce rendez-vous du donner du recevoir. Ça a été aussi le positionnement du Canada dans le cadre des arts. Et moi, pour moi, j'ai pu faire des contacts, avec renouer des contacts avec des médias. Je parle par exemple de Télé-Québec qui, à travers son stand, faisait voyager les spectateurs à travers un voyage numérique, un voyage, je dirais, imaginaire à travers des casques, qui faisait de faire voir des contes cités par des artistes canadiens. Donc moi, en somme, ça a été une occasion de me ressourcer encore avec le Canada que j'aime bien, le Canada que j'apprécie beaucoup.
Il y a combien de Canadiens, je ne sais pas si vous avez ces chiffres-là, comme ça, en Côte d'Ivoire? C'est quand même un des pays comme le Sénégal vers lequel le Canada a beaucoup d'affection. Mais est-ce que vous avez une idée du nombre de comment on appelle ça, des expatriés? Non, des coopérants, voilà, des coopérants canadiens.
Bon, au nombre de coopérants, je ne pourrais pas vous donner un chiffre exact, mais ce qui est sûr, je vous ai dit, nous avons eu un entretien avec Son Excellence Mme Julie Choudaille hier à l'ambassade du Canada pour voir l'importance, pourquoi est-ce que le Canada a accepté l'invitation de la Côte d'Ivoire. Mais dans son entretien, nous avons remarqué que la petite communauté, ou sinon les ressortissants canadiens qui étaient ici, ne sont pas assez nombreux, mais quand même, pour ceux qui sont revenus en Côte d'Ivoire, qui sont d'origine ivoirienne, mais qui sont revenus en Côte d'Ivoire, ils sont assez, c'est un nombre assez acceptable, et se retrouvent à travers cette culture, se retrouvent à travers ce massacre pour échanger.
Oui, je me demandais quelle sorte d'échange pourrait se faire entre des artistes canadiens, peut-être que vous avez vu là-bas, vous pourriez découvrir ici, avec des artistes de la Côte d'Ivoire.
Je n'ai pas bien saisi la question.
Quelle sorte d'échange pourrait avoir lieu, selon vous, entre des artistes ivoiriens et des artistes canadiens?
Par exemple, les artistes africains, quand je prends, par exemple, la Burkinabé Malika, qui fait du slam, Malika, oui. A eu des échanges de passage. Il faut dire que quand le Canada a organisé cette soirée d'échange et de réseautage, on se demandait qu'est-ce qu'il peut avoir. Votre question était vraiment la bienvenue. Non, qu'est-ce qu'il peut avoir comme échange? Mais on se retrouvait que deux artistes peuvent se retrouver et essayer d'établir un projet culturel, à savoir celui du Canada pourrait venir en Côte d'Ivoire échanger sa culture, échanger, partager et apprendre la culture de l'autre dans un atelier artistique. Et après le séjour en Côte d'Ivoire, les deux peuvent embarquer pour le Canada pour expérimenter aussi cette culture canadienne. Au-delà de tout ce que peut apporter, nous pensons que s'il existe cette plateforme d'échange, de collaboration, les artistes dans leur intelligence pourront mettre des projets innovants sur place pour permettre aux cultures de se connaître et avoir cette facilité d'avoir le dialogue des cultures entre les différentes communautés.
Alors, le MASA est rendu à sa 11e édition et à en croire, Stéphane Parent, vous avez été de toutes ces éditions-là. En termes de retombées et de bilan, c'est quoi vraiment les retombées pour la ville, pour Abidjan?
Pour Abidjan, vous avez à vous rendre seulement sur l'espace, c'est des femmes vendeuses qui ont l'occasion, pendant le MASA, d'installer des restaurants, comme ça se passe à l'Astrolabe au Canada quand il y a des grands événements, d'installer des petits kiosques pour permettre aux festivaliers d'aller se restaurer. Ça, c'est d'une partie. Et pour les transporteurs de taxis, les chauffeurs de taxis, de pouvoir se faire aussi des contacts, de pouvoir se faire aussi, de monter leur économie à travers le transport des festivaliers d'un quartier à un autre ou même aller visiter la ville d'Abidjan. Aussi, au-delà du transport, on a les hôteliers. Ça leur donne une occasion de monter leurs chiffres d'affaires et, en hébergeant des touristes, des festivaliers. Et aussi, c'est toute une opportunité pour nous, en tant que journalistes aussi, d'avoir du contenu culturel, d'avoir du contenu en termes d'émission pour nos programmes radiophoniques.
Et au-delà des retombées... Si on veut... Oui, allez-y, finissez.
Pour des retombées financières, je pense que ça aide les uns et les autres à pouvoir augmenter plus la bourse. Les retombées culturelles, les retombées au plan diplomatique, c'est les échanges. Aujourd'hui, je parie que l'échange entre le Canada et la Côte d'Ivoire a permis, culturellement, a permis aux Ivoiriens de mieux connaître les Canadiens, de mieux connaître la culture canadienne, parce qu'à travers les arts, à travers les poètes, à travers les slameurs, à travers toute cette diversité culturelle du Canada qui se déporte ici à Abidjan, c'est un plus pour la population, c'est un plus pour le côté politique et le côté, je dirais, culturel.
Sidi Bey, merci beaucoup pour ce rapport très culturel et très informatif. Merci beaucoup. Puis, on vous souhaite bonne continuité. N'hésitez jamais à communiquer avec nous. Oubliez les gouvernements. Appelez-nous directement si vous avez quelque chose qui se passe, d'accord?
OK. Vraiment, merci. Merci à vous depuis Montréal. Je termine en disant comme ça la pensée de Simon Bobin, qui disait « La jeunesse cherche toujours à rêver. Et si on les empêche de rêver, ils vont les empêcher aussi de dormir. D'ici là, disons la lune. »
Voilà qui est bien dit.
Ouais, fantastique.
Au revoir.
Alors, c'était Sidi Bey de Maféré, journaliste, producteur radio là-bas. Il travaille pour Radio Mosaïque. J'ai certainement entendu parler de Radio Mosaïque.
Très intéressant et très inspirant aussi.
Voilà. On est bien contents de vous avoir eu à l'émission. Avec vous, on avait plaisir, quelqu'un qui...
J'aimais bien son chapeau. Ben oui. Un petit look Bruno Mars.
C'est vrai, hein?
Ouais. C'est super sympa.
Êtes-vous prêt pour la devinette de la semaine? Il n'y a pas de point à perdre.
On n'allume pas.
Non, il n'y a pas de
C'est fini. Bon, voilà. C'est l'image de la semaine?
Oui, devinez quelle est l'image de la semaine.
Il n'y a pas eu d'image par rapport à ça, mais je parlerai de Sophie Grégoire.
Oh, la femme du premier ministre canadien.
La femme du premier ministre canadien qui a été testée positive. Est-ce que c'est COVID-19?
Ça, je vous dirais que si c'était au Canada, ce serait peut-être l'image de la semaine, mais notre événement ne se passe pas au Canada.
États-Unis.
Ça se passerait peut-être aux États-Unis.
Oui, donc c'est M. Trump. Non, M. Trump, lorsqu'il s'est adressé à la nation.
Non.
C'est pas ce joueur de la NBA.
Gobert.
Quel joueur?
Le joueur de la NBA. Gobert quelque chose.
Gobert quoi?
Oui,
qui a touché à des micros.
Mais c'est pas un Français, ça? Gobert, quelque chose?
Gobert? Est-ce qu'il est français? Je sais pas trop. Toujours est-il qu'il a été touché par le coronavirus.
Alors on va
montrer. C'est ça l'image?
Ben oui, c'est sûr.
Oh ben merci.
Ben oui, c'est évident. C'est l'image. Voici l'image donc. Et on a pris plusieurs images de l'image. Voilà qui arrive à la conférence de presse et éventuellement il va se moquer de.
Je crois qu'il a minimisé l'impact du COVID-19.
Oui, exactement.
Et il a été pris au piège.
Rudy Gobert.
D'ailleurs, il s'est excusé. Il a fait amende honorable.
On continue de lui parler dans le casque, on dit aujourd'hui, dans les médias.
Dans tous les cas, on lui souhaite un prompt rétablissement parce que c'est pas drôle du tout. Hein.
Regardez.
Bon, il a voulu faire une blague, sauf que ça en était
une. Il revient vers les micros.
Ça en était une de très mauvais goût. Voilà.
Ouais, écoutez, allez, s'il n'était pas tombé malade, ça aurait été de...
L'intention était de faire rire le monde, sauf qu'il
Vous savez, le problème, c'est que les gens comme ça, qui font des trucs comme ça, c'est qu'après, ils avouent qu'ils ne connaissent pas grand-chose à propos de la maladie COVID-19. Et pourtant, il y a plein d'informations qu'on peut trouver. Autant sur les sites de l'OMS, autant sur les sites gouvernementaux. Okay. On explique bien avec des questions.
Écoutez, c'est vrai que c'est important de s'informer, c'est important d'informer, n'est-ce pas? On est d'accord avec les deux principes. Mais souvenez-vous, on parlait au début de l'émission de la panique. Et moi, j'ai une amie qui passe du temps beaucoup à regarder la télévision. Moi, je n'ai pas tout à fait le temps parce que j'ai des choses à faire personnellement. Beaucoup de choses en ce moment. Mais elle passe beaucoup de temps à la télévision. Je le remarque, le ton monté. Je remarquais ça ces jours derniers. Et puis, je me dis que peut-être le conseil qu'on peut se donner à tous pour diminuer la pression, tout en restant ouvert à la possibilité qu'il existe un danger, c'est de fermer.
Et tout en s'informant.
C'est de fermer la télévision, la radio, peut-être quelques heures, peut-être un ou deux jours. Mm-hmm. C'est pas à moi de vous dire combien de temps, c'est à vous de savoir que ça fonctionne. Moi, je sais que ça peut fonctionner dans mon cas.
Et garder un certain sens de l'humour face à tout ça.
Oui.
Tout à fait. Mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée de fermer la radio et la télévision, parce qu'il y a des mises à jour sur une base quotidienne.
Okay.
On a le premier ministre du Québec qui a pris la parole hier avec sa panoplie de mesures.
Oui, c'est ça qui a aidé à vider les épiceries.
C'est ça. Aujourd'hui encore, je crois qu'il y aura de nouvelles directives qu'il va donner. Donc, je ne pense pas que ce soit une excellente idée de se couper comme ça de l'information.
D'accord. C'est votre opinion.
C'est mon opinion.
Et vous la partagez.
Il faut se tenir informé.
C'est très bon. Voilà. Je suis d'accord avec vous.
Moi, je dirais s'informer, mais sans s'énerver.
Sans s'énerver.
Sans paniquer.
Tout à fait. OK. D'accord.
On y va pour ça?
OK. Puis les journalistes, qu'est-ce qu'ils font, eux, pendant ce temps-là? Ils informent.
Ils informent.
Ils continuent à informer. Ils essaient de vérifier, de donner la bonne information. Et donner l'heure juste à la population qui a vraiment besoin d'être bien informée.
OK. Peut-être d'expliquer 5 choses en même temps. Peut-être d'en expliquer une à la fois bien.
Une à la fois, tout à fait, oui.
Je pense que c'est un conseil que je vais moi-même essayer de suivre. Merci d'avoir été là à l'émission aujourd'hui. J'espère que vous appréciez le ton. Évidemment, ce n'est pas toujours facile dans des cas. On aborde souvent des questions sociétales difficiles ici à cette émission. Toujours sur la forme du jeu et du plaisir. Mais puisqu'après tout, la vie, ce n'est pas qu'un drame. C'est aussi une occasion de fêter ensemble. À la semaine prochaine.
Au revoir tout le monde. Thank you.